Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Pas de surprise, Donald Trump, procès en destitution devant le Sénat américain, acquitté hier soir. Des horaires décalés pour les petits, retour à des cours en partie à la maison pour les plus grands. La région de Dunkerque, en alerte aux variants britanniques, prend des mesures pas suffisantes, disent les élus, vous l'entendrez. Et quand les hôpitaux se mettent en mode crise, se préparent à la vague, certains déjeunent au restaurant clandestin. Reportage dans un instant. Dans le reste de l'actualité, la Saint-Valentin, sous Covid et couvre-feu, si, ça peut être sexy. Le rugby, tournoi des Six Nations, les Bleus à Dublin cet après-midi, et puis du ski tout à l'heure dans Esprit Sport.
Et puis un mot sur notre invitée à partir de 8h20, ce sera la secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel.
France Inter. C'était son deuxième procès en destitution devant le Sénat, accusé par les démocrates d'incitation à l'insurrection après les émeutes au Capitole le 6 janvier dernier. Et donc, encore une fois, Donald Trump s'en sort. Acquitté large hier, 7 républicains seulement ont voté pour sa destitution. Pour passer à la majorité des 2/3, il en aurait fallu 10 de plus. À New York, Loïc Loury.
57 pour, 43 contre, loin de la majorité des 2/3. La barre, comme lors du premier procès en destitution, l'institution de Donald Trump était trop haute. Avant 16h, l'ex-président est donc acquitté, malgré l'espoir des démocrates de rallier une partie du camp adverse. Leur chef de file, Chuck Schumer, a exprimé déception et colère après le vote. Cet échec à condamner Donald Trump restera comme un vote de l'infamie dans l'histoire du Sénat des États-Unis. Une bonne nouvelle pour Donald Trump, qui manifestement conserve une emprise sur son parti, un peu moins bonne pour des élus conservateurs tiraillés, à l'image de leur leader, Mitch McConnell, qui reconnaît les torts de Donald Trump. Il n'y a aucun doute, aucun Donald Trump en pratique et moralement est responsable de ces événements, aucun doute là-dessus. Tout en ayant refusé, pour des raisons légales, dit-il, de voter pour sa destitution. Nous n'avons aucun pouvoir pour condamner et destituer un ancien président qui est désormais un simple citoyen. Un parti républicain qui va devoir se reconstruire face à des démocrates désormais majoritaires dans les deux chambres et prêts à tourner la page, Donald Trump. New York, Loïc Loury, France Inter.
Ça paraît difficile car Donald Trump reprend déjà du poil de la bête, fort de ses 74 millions de voix à la dernière élection. Notre mouvement magnifique, historique, Make America Great Again ne fait que commencer, a-t-il commenté dans la foulée.
Pas de reconfinement et pas de fermeture d'école non plus.
Ni en Moselle où le variant sud-africain progresse en sous-marin, ni dans la région de Dunkerque où là c'est le mutant britannique qui se répand. Une région où la situation s'est brutalement dégradée ces derniers jours. Alors hier, la préfecture a quand même annoncé quelques aménagements, notamment pour les scolaires, des horaires décalés d'entrée et de sortie pour les petits, des cours alternés entre l'école et la maison pour les collégiens et lycéens. Bertrand Ringot, le maire de Gravelines, vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, s'inquiète. Il dénonce ce matin des mesurettes face à l'ampleur de l'épidémie.
Ce sont des décisions de l'État, mais nous avions demandé plus. On est quand même à 80% sur les tests positifs, 80% sont liés aux variants anglais. Donc on a un taux d'incidence de plus de 515 sur la communauté urbaine. Nous avions demandé, tous les maires de la communauté urbaine, sur la dernière semaine avant les vacances, de fermer avec une semaine d'avance les écoles. Parce que le problème, c'est qu'ensuite, ces territoires vont irriguer. On le voit bien, au départ, c'était Dunkerque uniquement. Maintenant, c'est sur mon territoire, sur le Gravelinois, sur le canton de Grande-Synthe. Je sais que sur l'Audomarois, c'est en train aussi de se développer, puisque les bassins d'emploi sont interconnectés, etc. Donc, il y a une mobilité inter-bassin d'emploi qui existe. Donc, le variant va malheureusement circuler.
Vous pensez que les autorités locales, comme vous, doivent reprendre la main maintenant, dans cette crise?
Je pense qu'on doit être plus dans la boucle. J'ai déjà eu l'occasion de le dire aux autorités préfectorales. On ne peut pas jouer les collectivités contre l'État. Je pense qu'il faut jouer, ensemble, mais il faut vraiment une mobilisation, une réactivité plus forte.
Bertrand Ringot avec Ersine Lebovitch. Au nord comme à l'est, donc, le gouvernement a choisi de dépister davantage et de vacciner plus. Mais c'est une impasse pour Christian Rabault du CHRU de Nancy. Dans la presse ce matin, il parle d'une drôle de guerre sans les bonnes munitions et rappelle que l'AstraZeneca semble pour l'instant moins efficace contre le variant sud-africain. Pfizer et Moderna, beaucoup plus, encore faut-il, dit-il, avoir les doses, ce qui n'est pas le cas. La vaccination, l'Union européenne annonce ce matin que la procédure allait être désormais accélérée. L'approbation pour tous les vaccins revus et corrigés en fonction de ces variants seront validés beaucoup plus rapidement. Pendant ce temps, comme dans le bon vieux temps, comme si le Covid n'existait pas, certains se retrouvent au restaurant, clandestin évidemment. Reportage au milieu des collines du Doubs avec Rachel Saadodine.
C'est une scène un peu hors du temps. Une famille de 8, enfants, parents, grands-parents, autour d'une table dans un restaurant. Et pour Marie, la grand-mère, c'est surtout une vraie bonne surprise.
On fait vraiment partie des privilégiés, hein, là, pour le coup. Parce que ce matin, quand on s'est levé, on parlait du pique-nique. On s'est dit, il fait moins 8, moins 9, on va avoir froid aux doigts.
C'est la restauratrice qui leur a proposé une table au chaud. Elle ne souhaite pas s'exprimer au micro, de peur d'être reconnue, mais elle affirme servir quelques randonneurs tous les midis. Et au menu aujourd'hui, c'est fondu.
Bah là, on a vite fait de l'oublier, le Covid. Hein. Ça fait vraiment du bien. Non, mais c'est quelque chose moi, qui me manquait énormément, quoi, les restos, les bars, voilà, la convivialité.
Tout se passe bien ?
Patrick vient d'envoyer une photo de son repas à un ami.
Il me dit, mais c'est pas interdit les restaurants ? Et je lui ai répondu que voilà, on était en pleine nature et que ça faisait un bien fou.
Et même ses parents, pourtant âgés et donc à risque, ne voient aucun problème à déjeuner au restaurant.
Je pense que maintenant on est dans une ville où il va falloir qu'on s'immunise. Donc on va être obligé de se confronter un peu au virus.
Non, mais ça me fait pas peur. Hein. En même temps, je me dis, si on doit l'attraper, on l'attrapera.
Selon la patronne du restaurant, avec si peu de clients, elle ne prend aucun risque, d'autant qu'elle affirme désinfecter et aérer régulièrement son établissement.
En plein décalage, voici les hôpitaux où on attend la vague, malgré des chiffres en légère baisse ces derniers jours. Avec les variants, les signaux sont au rouge. Le ministère de la Santé s'y prépare, en tout cas. Circulaire confidentielle révélée ce matin par le journal du dimanche et envoyée à tous les hôpitaux de France. D'ici vendredi prochain, ils doivent passer en mode crise. Ça veut dire avoir déprogrammé toutes les opérations non urgentes pour récupérer les lits et mobiliser le personnel avec augmentation, s'il le faut, du temps de travail. Les enquêteurs de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, sont rentrés de Chine il y a quelques jours, enquête à Wuhan sur les pistes originelles du virus. Mais depuis, la polémique enfle, Pékin n'aurait pas partagé toutes ces données. Correspondance Zifan Liu.
L'OMS a demandé en vain à pouvoir étudier les données brutes sur 174 cas d'infection identifiés au début de l'épidémie en décembre 2019 à Wuhan. Au lieu de cela, la délégation internationale n'a pu avoir accès qu'à une synthèse des données, a partagé Dominique Dwyer, infectiologue australien, membre de l'équipe d'experts mandatée par l'OMS. Les polémiques enflent alors que la mission a rendu ses premières conclusions après 4 semaines de travail. Lors d'une conférence de presse mardi, les experts ont rejeté la thèse d'une fuite du virus depuis un laboratoire. Plus surprenant, les experts n'ont pas écarté l'hypothèse d'une contamination par des produits surgelés, une version régulièrement avancée par la Chine pour désengager sa responsabilité dans la pandémie. Après avoir longtemps repoussé l'échéance, Pékin a finalement accepté l'envoi d'une équipe pour enquêter sur son territoire plus d'un an après le début de la crise sanitaire et alors que la question de l'origine du virus est devenue hautement sensible pour le régime communiste. Pékin, Zifanou, France Inter.
Et on l'apprend à l'instant, la Nouvelle-Zélande instaure et déclare un nouveau confinement immédiat dans la ville d'Auckland.
En France, à 15 mois de la présidentielle, la droite se prépare.
Il devient de plus en plus l'incontournable troisième homme. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, poussé par les récents sondages, beaucoup moins en revanche dans son propre camp, Élodie Forêt.
Xavier Bertrand, le mal-aimé. Certes, cette semaine, le patron des Hauts-de-France s'est entendu avec Bruno Retailleau. Pas de tir dans le dos ces prochains mois. Dans la situation où nous sommes, on ne peut pas se payer le luxe de trop s'abîmer, confie un proche du sénateur. Mais ce pacte de non-agression fait figure d'exception, car à droite, les rancœurs sont vives contre celui qui fut un temps président de l'UMP. C'est un scorpion, glisse un conseiller, un menteur, abonde un élu. Une personnalité, une ligne clivante du Mélenchon de droite, soupirent les plus libéraux qui ne lui pardonnent pas ses récentes œillades à Arnaud Montebourg. Conséquence, ce doute chez beaucoup. Faire campagne pour lui, je ne l'imagine pas, dit un sarkozyste. De quoi énerver les soutiens de Xavier Bertrand qui appelle la droite au réalisme. On n'a rien de mieux en magasin. Reste à convaincre une direction LR récalcitrante et des cadres qui rêvent toujours d'un retour de Nicolas Sarkozy, voire d'une volte-face de François Baroin, et qui repousseront l'heure du choix autant que possible.
À l'étranger, les étudiants en Birmanie refusent de plier. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont abrogé les lois qui protègent les libertés. Ils ont aussi arrêté des centaines de manifestants. Mais les voici à nouveau dans la rue. 9e jour de mobilisation. Ils étaient ce matin encore des milliers dans les rues de Rangoon. Et puis là aussi, c'est une détermination à toute épreuve. Les partisans de l'opposant russe, Navalny, toujours emprisonné, ont décidé de politiser la Saint-Valentin cette année. Les habitants partout en Russie, invités à se réunir avec la lumière de leur smartphone ce soir dans les cours ou les jardins d'immeubles pour former un cœur. Opération l'amour plus fort que la peur. Car nous y sommes, 14 février, et donc cette Saint-Valentin, à quoi va-t-elle ressembler? Sans resto, sans théâtre ou ciné, pas de balade nocturne dans la neige non plus, sous Covid et couvre-feu. Heureusement, dites donc, la Saint-Valentin, ça se passe aussi sous la couette. Reportage Damien Triomphe, France Bleu, Pays de Savoie.
Stéphane va offrir aujourd'hui un petit cadeau à son épouse.
C'est un joli t-shirt sur la Savoie. Ça sera pas le seul cadeau, donc c'est le cadeau qu'on peut montrer aux enfants plus facilement.
Et pour cause, le deuxième cadeau, c'est un sextoy.
Qu'on déballera un petit peu plus tard dans la soirée, certainement. C'est un choix pour la Saint-Valentin, pour ma femme, pour s'amuser ensemble. Voilà, je pars sur quelque chose d'un petit peu différent, en espérant que ça marchera bien, que on prendra beaucoup de plaisir avec.
Il l'a acheté à la boutique Erotic Dream à Chambéry, qui fait près de 20% de son chiffre d'affaires sur cette période de Saint-Valentin. La boutique est tenue par Jean Daniel. Il dit que ce sont les hommes qui majoritairement optent pour ce type de cadeau-là.
Ouais, on va dire il y a les 70% d'hommes et le 30% c'est les femmes. Ouais.
Comme dans chaque domaine de consommation, il y a les accessoires tendance.
Il y a eu un petit produit, c'est des nouveaux systèmes par impulsion d'air. Là, il est en forme de pingouin. Il y a vraiment ce petit produit-là qui marche très très bien.
Cadeau de Saint-Valentin aussi, la lingerie. Alors pas forcément la lingerie fine.
La qualité, elle est quand même au rendez-vous. Et après, c'est des trucs particuliers. Saint ouvert, ça on trouve pas par exemple dans d'autres magasins spécialisés sous-vêtements.
Et puis des produits spécialement sortis pour ce 14 février, des coffrets en forme de cœur avec notamment à l'intérieur des huiles de massage.
Le pingouin ou l'huile de massage, bah oui, hein, faut bien s'occuper quand on reste à la maison.
Et oserais-je dire après ça qu'il va y avoir du sport.
Et même de la passion, Eric. Il y en aura, c'est sûr, sur la pelouse de Dublin aujourd'hui. L'heure de frapper un grand coup pour le 15 de France, de confirmer sa position de favori. Rugby, tournoi des six nations. La France affronte l'Irlande, d'habitude devant 50 000 supporters dans une atmosphère chauffée à blanc. Mais cette fois, l'Aviva Stadium restera désert. Un huis clos qui arrange bien finalement les Français. Le trois quarts centre, Gaël Ficou.
C'est vrai que maintenant, les matchs à l'extérieur, ils ont beaucoup moins d'impact, on va dire, sur l'aspect psychologie, sur les arbitres, dans le sens où les supporters, quand il y a une grande percée, un gros plaquage, une décision de l'arbitre, ben, il y a moins de pression sur les épaules des joueurs, sur l'arbitrage, sur tout ça. Et c'est vrai que ça équilibre un peu, on va dire, l'avantage. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. Mais je pense que c'est vrai que ça rééquilibre un peu cet aspect jouer à domicile ou à l'extérieur, vu le manque des supporters. Comme on dit, c'est le 16e homme qui pousse derrière, etc. Et ça fait que des fois, on va chercher un peu plus au fond de nous-mêmes pour aller marquer cet essai ou récupérer cette pénalité ou défendre un peu plus longtemps. Et voilà, j'espère qu'on prendra tout ce qu'il y a à prendre ce week-end en Irlande.
Gaël Ficou avec Fanny Le Chevestrier et Irlande-France, c'est à 16h tout à l'heure. Hier, l'Angleterre a dominé l'Italie 41-18. Le Pays de Galles s'est imposé ric-rac en Écosse, 25-24. Coup de théâtre dans la lutte pour le titre en Ligue 1, c'est du foot. Alors que le PSG a laborieusement gagné face à Nice 2-1. Lyon s'est fait surprendre hier à domicile par Montpellier. Défaite 2-1, l'OL qui chute à la 3e place. Esprit sport ce matin, consacré à ce quadragénaire, toujours d'attaque sur les pistes de ski au plus haut niveau. Jean-Pierre Blimeau, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez de Johan Claret, le doyen de l'équipe de France de ski alpin qui vit une très belle fin de carrière à tel point qu'il se frotte encore au meilleur dans la descente des championnats du monde disputée aujourd'hui en Italie.
Oui, ses 40 ans, il les a fêtés le 8 janvier au cœur d'un très bel hiver pour lui. Deux semaines plus tard, il allait marquer l'histoire du ski alpin à Kitzbühel sur la piste mythique la Streif. Johan Claret devient le premier quadragénaire à monter sur un podium d'une épreuve de Coupe du Monde avec une médaille d'argent. Deux ans plus tôt, il avait déjà obtenu une médaille d'argent au Super G aux Mondiaux en Suède, devenant le doyen des médaillés en championnat du monde. Aujourd'hui, Johan Claret pourrait donc encore faire parler de lui dans la descente des championnats du monde sur une piste de Cortina d'Ampezzo qu'il a reconnue, mais qu'il a ouvertement critiqué, sachant que les organisateurs écoutent ses conseils. Il faut dire qu'avec 5 championnats du monde au compteur et 18 ans de carrière, Johan Claret fait partie de ceux qu'on écoute. Une incroyable longévité qui fait de lui un témoin privilégié de l'évolution du ski ces 20 dernières années. Beaucoup de choses ont changé, reconnaît le doyen de l'équipe de France dans la préparation, le matériel, l'entraînement. Le skieur de Tignes tient à préciser que malgré les outils, les GPS, les combinaisons, les fixations, le fond reste le même pour être un bon skieur.
Et pourtant, Johan Claret n'a pas toujours été sage sur les pistes.
Oui, car aujourd'hui, hein, s'il joue, selon ses propres dires, un rôle de modérateur, il n'a pas toujours été celui qui rechigne désormais à prendre des risques inconsidérés. C'est ce qu'il a confié récemment à nos confrères de France Télévisions. Je ne suis plus prêt à skier la tête en dehors du corps. Il faut dire que le skieur de Tignes apparaissait comme un peu foufou dans sa jeunesse. Il a même accumulé plus plusieurs accidents qui ont perturbé son début de carrière. Des pointes à plus de 150 km/h et même un flash à 160,9 exactement avant de se blesser. Très décevant au JO de Sochi, il avait décidé d'arrêter sa carrière avant de se raviser. En 2017, il a été vraiment marqué par le décès à l'entraînement de David Poisson, son coéquipier en équipe de France. Mais aujourd'hui, la descente de Cortina d'Ampezzo lui tend donc les bras. Et ce n'est donc peut-être pas fini. Pourquoi ne pas continuer même après 41 ans ? C'est ce qu'il explique à un confrère ces derniers jours.
Voilà, un esprit sport qui glisse tout seul. Merci Jean-Pierre Bimaud.
Dans le journal d'Hélène Roussel, le temps de ce dimanche.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
En attendant des températures moins fraîches, hein, Jean-Michel Golinski.
La période de forte gelée touche à sa fin après une dernière salve de températures froides et même glaciales cette nuit sur les régions de l'Est avec moins 13 degrés sur la Haute-Saône, moins 10 à moins 12 de la Champagne à l'Alsace, et moins 4 à Cambrai ainsi qu'à Lyon, Paris et Châteauroux, moins 3 à Niort et Laval, petite gelée également autour de la Méditerranée, alors que près de l'océan et au sud de la Garonne, les températures matinales sont toutes positives et dans ensemble, les valeurs de la journée seront plus élevées qu'hier et demain, il va encore faire plus doux. Notre ciel dominical sera souvent nuageux avec des brouillards assez répandus dans le Val de Garonne et une tendance plus maussade de la Bretagne au Cotentin, également autour de la Méditerranée, avec un vent sensible entre la Corse et la plaine toulousaine, sur les Pyrénées-Atlantiques et de la Bretagne à la Baie de Seine.
Jean-Michel Golinski de Météo France.